L'immobilier dans le bon sens, présenté par Alexandre Toussaint, président fondateur de Baltis Capital.
Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver après quelques mois de pause pour la saison 2 de l'immobilier dans le bon sens. Après quelques mois un peu compliqués, on a dû mettre en stand-by l'émission et on reprend. Et donc je suis ravi pour cette reprise de recevoir Benoît Hennebelle. Salut Benoît.
Bonjour Alexandre.
Bienvenue dans cette émission et je sais que tu viens, alors pas de très loin, mais en tout cas tu es descendu de Lille pour nous voir, donc je suis vraiment content que tu sois là. C'est vrai qu'on aurait pu tourner à Lille, mais on y a pensé juste avant de commencer l'enregistrement, de se dire qu'effectivement il y a un studio Radio Imo à Lille, donc on aurait peut-être pu faire ça, mais on ira peut-être pour
la prochaine fois.
Voilà, pour la prochaine fois, en tout cas c'est noté. On va parler aujourd'hui de Nude, donc la société dans laquelle tu travailles et qui œuvre beaucoup dans les Hauts-de-France, notamment sur des projets un peu mixtes. Et avant ça, est-ce que tu peux peut-être juste te présenter rapidement un peu comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à chez Nude et ce que tu fais aujourd'hui?
Donc Benoît Hennebelle, donc je suis arrivé chez Nude via une des sociétés qui a permis la création de Nude, à savoir Nody, dans laquelle je travaille depuis 5 ans, avec un projet phare qui s'appelle La Mairie, dont on verra quelques détails, j'imagine, ensuite. Nude est une jeune société qui a fêté ses 1 an il y a quelques semaines de cela. C'est une décision forte de notre actionnaire, l'association familiale Mullier, qui œuvre depuis des dizaines d'années sur les métiers du retail principalement et puis d'autres métiers depuis. Il y avait deux entités qui œuvraient, donc cœur de métier et l'immobilier, Citrus d'un côté et Nody de l'autre, avec chacune ses spécificités historiques. L'une qui était plutôt à vocation de développer et de gérer de l'activité commerciale, de l'immobilier commercial, et Nody qui travaillait sur la restructuration de friches en milieu urbain. Notre actionnaire a décidé de regrouper l'ensemble de ses équipes pour créer une société de service, c'est-à-dire que les deux entités Nody et Citrust, restent des foncières. Et donc l'ensemble des équipes ont été regroupées dans une société de prestation de service, Nude, avec trois grands métiers, les trois grands métiers de l'immobilier professionnel, à savoir le property management, l'exploitation de bâtiments, principalement commerciaux, mais pas que. L'asset management, donc la gestion des actifs pour le compte de sociétés mandantes, Nody et Citrus et l'ensemble de l'environnement de l'écosystème AFM, Association Familiale Mullier, est concerné également. Et puis l'aménagement et la promotion pour accompagner ces projets de transformation des actifs, du bâti et du non-bâti autour de leur propriété foncière.
D'accord. Et donc donc N-H-O-O-D, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la contraction de neighborhood, puisque nous avons vocation à être un bon voisin, à avoir une ambition de créer des lieux en mieux. Et comme l'entreprise est installée dans 10 pays, il y avait une vocation forcément internationale dans ce nouveau nom.
D'accord. Donc, vous êtes des bons voisins, quoi. Donc, ça veut dire que les projets sont quand même très en centre-ville ? Très connecté à une ville où...
Alors, ils sont ancrés principalement sur le territoire historique de notre actionnaire. Donc, soit directement en centre-ville, ça va être le cas, par exemple, du projet de la Maillerie qui est en plein cœur de la métropole lilloise, mais pas que. Et il y a également tous les développements qui sont faits autour et à l'intérieur des centres commerciaux. Ces centres commerciaux qui se sont développés dans les années 60, 70 et 80 en périphérie ont été rattrapés par l'urbanisation. Et donc, aujourd'hui, on a... Quand on discute avec nos parties prenantes, les collectivités notamment, on peine à voir la distinction entre la périphérie historique et puis les cœurs de ville. Et donc c'est à ce titre que nous œuvrons dans les cœurs de ville désormais.
D'accord. Et du coup, il y a autant des projets de réhabilitation que de construction neuve aussi ?
Les deux s'entremêlent forcément. Ça va dépendre effectivement de plusieurs paramètres. Le premier, c'est effectivement l'état du bâti et l'état de l'activité autour de ces sites. Si on travaille sur un ancien site logistique qui est abandonné, bah forcément, on va travailler sur la régénération totale, on va dire. Et puis, quand on va travailler autour des centres commerciaux, il y a une partie qui est de la transformation et de l'accompagnement des business models de nos partenaires de l'écosystème et de la création ex nihilo autour des fonciers qui pouvaient être disponibles, notamment par des surfaces imperméables de parking, notamment qui nous laissent un terrain de jeu assez intéressant à travailler pour compléter et pour développer l'offre autour de ces centres commerciaux.
Ok, donc quand on dit que Nude est un opérateur mixte, du coup c'est vraiment toutes les classes d'actifs, autant du bureau, du commerce, du logement, du parking, C'est souvent des lieux, du coup, avec toutes ces classes d'actifs-là ?
Tout à fait. Ce sont des lieux qui ont à chaque fois une histoire. Alors, on a un point du corps qui est assez important au niveau du commerce, naturellement. Mais la foncière Naudi a été créée pour acheter et pour développer d'autres types de bâtiments. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de bâtiments de bureaux, d'entrepôts, de résidences gérées également. Donc on vient étoffer les classes d'actifs et puis par conséquence, on vient étoffer la typologie de sujets que l'on a à développer sur la partie aménagement et promotion en ayant cette vocation toujours de créer de la mixité et de l'accessibilité autour de nos sites.
Et après, à chaque fois, vous avez juste vocation à détenir l'immobilier. Vous n'êtes pas du tout exploitant. Vous travaillez après avec des exploitants qui...
Alors, comme je vous le disais, on est une société de service. Donc, nos foncières décident, arbitrent sur l'acquisition ou la cession d'un certain nombre d'actifs. Et puis nous proposons un panel de services pour exploiter, gérer, participer à l'arbitrage qui peut être fait sur des cessions-acquisitions et puis sur du développement avec notre métier d'aménageur-promoteur.
D'accord. Et quand on va sur votre site, on voit que l'humain, à chaque fois, est vraiment au cœur du projet. Du coup, comment est-ce qu'est construit un projet pour que l'humain, justement, soit le point central ?
C'est dans notre ADN, hein, l'ADN d'abord de notre actionnaire qui est un commerçant au service des commerçants, qui a toujours œuvré pour rendre toujours le plus possible l'accessibilité de ses produits. Donc dans l'immobilier, c'est sans doute un petit peu différent que quand on achète une paire de chaussettes, un vélo ou un marteau, évidemment. Mais forcément, nous sommes amenés à pouvoir... D'abord, notre volonté, c'est d'abord d'ancrer nos projets, c'est-à-dire de ne pas photocopier quelque chose qui a été fait sur un autre territoire. Donc c'est déjà d'essayer de comprendre l'environnement direct, de travailler avec nos voisins directs. Nos voisins directs, c'est un tissu urbain qui est déjà constitué. Ça peut être évidemment des habitants, ça peut être des entrepreneurs, des entreprises qui travaillent autour, des commerçants qui sont déjà présents et évidemment les collectivités, puisque sans ces collectivités, sans ces maires et ces intercommunalités, nous ne pouvons pas faire de transformation de sites sur des terrains qui sont de surface assez significative.
Ouais, bon, on va reparler du projet de la mairie juste après, mais ça veut dire que pour chaque projet, il y a un peu des recherches qui sont faites sur l'histoire de la friche ou l'histoire du bâtiment pour essayer de conserver l'ADN ou l'histoire pour la réintégrer dans le futur projet.
Il y a effectivement un travail autour de l'ADN pour travailler cet ancrage, effectivement. Et puis il y a aussi un travail de prospective autour des ambitions qu'on veut travailler sur ces sites. Et chaque site a sa propre ambition, répond à un certain nombre d'enjeux. Évidemment sur des grands thèmes que l'on retrouve souvent dans nos projets autour de la mobilité, autour de l'environnement, autour du lien social. C'est ce qu'incarne notamment la mairie. Mais à chaque fois, la réponse doit être différente puisque les enjeux qui sont posés sur chacun de nos sites sont différents et sont très, très locaux.
Ouais, donc c'est que des lieux uniques qui effectivement s'intègrent bien dans le côté le tissu local. Et justement, donc ce projet de la Maillerie, donc à Villeneuve-d'Ascq, donc dans le nord de l'île, pour ceux qui connaissent pas.
Oui.
Alors déjà, pourquoi la Maillerie ? Est-ce que ce nom vient du coup de l'histoire du lieu ?
Alors le nom est effectivement une conséquence directe de l'histoire du lieu. Naudi a été créé justement par l'association familiale Mullier, qui était également actionnaire depuis une quarantaine d'années de Trois Suisses, donc l'entreprise de VPC bien connue, qui a raté un virage technologique, qui n'a pas cru dans le e-commerce à l'époque, et donc qui a vu son activité décliner. Et puis notre actionnaire a eu l'opportunité de pouvoir racheter un certain nombre de fonciers, une trentaine d'hectares, à cheval entre trois villes, donc Villeneuve-d'Ascq principalement, mais Ouascal et Croix également, donc toujours sur la métropole nord de Lille, entre Roubaix, Tourcoing et Lille. Et donc ce site de la Maillerie, c'est un ancien entrepôt logistique. Globalement, tout ce qui transitait, tout ce qui était commandé sur le catalogue des Trois Suisses transitait par ces entrepôts. Et on avait une ambition de créer un lien entre le passé du site et son futur, de créer un lien, puisque c'est dans un environnement qui est très urbain, très constitué, qui était déjà très constitué à l'époque, de créer un lien entre les riverains, les habitants, les entreprises qui étaient déjà présentes autour, et puis un projet qui va transformer significativement le paysage local, puisqu'on parle d'un terrain de 10 hectares sur lequel on va développer, ou on développe déjà 90 000 m² de surface de plancher avec de l'urbanisme et de la programmation mixte, une mixité de produits évidemment. Et donc il y avait cette ambition de tisser ce lien d'histoire et de voisinage.
D'accord, et donc la maillerie, donc c'est la maille, du coup, c'est ça?
C'est la maille, tout okay. à fait, oui, absolument.
Et du coup, c'est-à-dire que ces entrepôts-là étaient déjà vides à l'arrêt ou
Alors, ils étaient encore en toute petite activité. Ils étaient occupés par une entreprise qui s'appelle Dispéo, qui utilisait encore une partie de ces bâtiments, mais qui avait vocation à quitter les lieux pour des bâtiments qui étaient beaucoup plus modernes. On parle d'entrepôts qui étaient construits dans les années 70, avec une grande robustesse technique, mais qui n'était pas forcément adaptée aux enjeux logistiques d'aujourd'hui. Et donc, on a accompagné la fin de cette activité de logistique, et puis on a préparé le futur depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Et du coup, en 2017, comment est-ce qu'on arrive à créer un lieu aussi vaste comme ça? C'est quoi les premières étapes? Est-ce que vous êtes allé sonder, par exemple, les voisins pour savoir quel type de commerce ou de service ils aimeraient avoir sur ce terrain-là? Comment on initie un aussi gros projet?
Alors d'abord, c'est le fruit d'un travail partenarial. On est co-aménageur avec Link City. Et puis, il y a eu un travail exceptionnel de fait avec les deux villes, Villeneuve-d'Ascq et Croix, qui sont les territoires sur lesquels s'installe le permis d'aménager, et également la métropole européenne de Lille, puisque c'est un projet quand même assez significatif. Donc il y a eu tout un travail de programmation pour essayer de construire le futur et d'apporter cette mixité que l'on souhaitait. Et évidemment, sur le socle d'ambition, on est allé interroger les riverains pour asseoir les quatre grands enjeux qui ont participé au lien du développement du projet, à savoir donc le lien social, j'en parlais, la place de la nature en ville, la mobilité et la gouvernance partagée. Et puis sur la programmation commerciale, on a continué, puisque la partie commerciale n'est qu'un des éléments du programme, puisqu'on a du logement, des bureaux, de la résidence gérée, une école également, et des commerces donc.
C'est une école pour les habitants du quartier ou...
Tout à fait, oui. En fait, il y a une école qui est toujours installée un petit peu plus loin, qui était déjà trop petite. Et puis avec le développement des logements sur ce projet, les besoins de classe allaient être croissants. Et donc on a signé un PUP pour accueillir sur ce site le développement de cette nouvelle école. Et donc sur la partie commerciale, j'y reviens, on a eu cette même vocation d'aller sonder les commerçants, les habitants sur leurs besoins latents autour du commerce et des services au sens plus large. Et c'est comme ça qu'on a affiné cette programmation. Et puis avec une particularité, c'est que cette programmation commerciale, elle est principalement installée dans un entrepôt que l'on a reconverti avec un projet technique qui a été mené avec notre partenaire Link City et Bouygues Construction, naturellement, pour faire de ce seul entrepôt que nous avons conservé sur les trois grands entrepôts qui étaient présents, un ensemble commercial et serviciel au rez-de-chaussée, qui ne ressemble pas du tout à une galerie commerciale classique, avec du stationnement foisonné sur les étages, une partie de bureau et un jardin suspendu en toiture.
D'accord. Et sur la partie commerce, donc j'imagine il y a la restauration.
Il y a une partie de restauration, tout à fait. Le premier enjeu pour nous, c'était de ne pas déstructurer un tissu commercial qui était déjà présent dans le centre-ville de Croix, qui est à grande proximité, et également sur une artère plutôt commerçante de Villeneuve-d'Ascq. Donc l'idée, c'était d'abord de compléter. On a eu la chance de rencontrer des acteurs indépendants, trois frères et un cousin qui avaient déjà développé des halles dans le Pays Basque, à savoir Biltoki, qui commence à se développer un peu partout en France. Et donc on a mené ce projet autour de la régénération du commerce indépendant. Et puis est venu se greffer effectivement une partie restauration, une partie commerce autour de l'éco-responsabilité et du durable. Et puis une quatrième entité qui est plutôt à destination du e-sport, donc une partie gaming qui a vocation à accueillir aussi des publics jeunes.
Et quand on crée un lieu comme ça avec du bureau, du logement, de la restauration, une école, etc., est-ce qu'on essaie de construire ça en se disant il faut que ce soit une mini-ville dans la ville qui pourrait presque vivre en autarcie, ou le but c'est quand même de créer des passerelles avec vraiment tout ce qu'il y a autour?
Alors, par l'ampleur de son projet, effectivement, ça ressemble à une petite ville. Aujourd'hui, la communauté urbaine de Lille, la MEL, c'est 95 communes. Et la programmation sur le projet de la mairie, c'est à peu près 700 logements, 16 000 m² de bureaux, 3 résidences gérées, je le disais, et des commerces. Donc on est quasiment à l'équivalent de certaines villes. Pour autant, il nous semblait fondamental de s'ouvrir au territoire. On est dans un environnement urbain déjà constitué, avec une forte densité côté Villeneuve-d'Ascq et Croix. Et donc on a essayé de gérer ce caractère apaisé en cœur de projet, faire en sorte que la quasi-totalité des modes de déplacement soient doux à l'intérieur du quartier, et pour autant que ce site y soit ouvert sur son environnement direct et qu'il puisse accueillir des publics qui viennent de plus loin. On a recréé un marché autour du tertiaire. L'activité de bureau était complètement absente depuis l'arrêt de l'activité 3 Suisses sur ce site, puisque 3 Suisses existe toujours. Et on a fait pareil pour les commerces. Donc on essaye de gérer cette capacité entre apaisement et qualité de vie intérieure du quartier, et puis ouverture vers l'extérieur pour pouvoir accueillir l'ensemble de nos visiteurs, qu'ils soient quotidiens ou occasionnels.
Donc là, on est fin février 2022. Le projet en est où ? Est-ce que tout est construit ?
Non, le projet n'est pas intégralement construit. On a déjà une première phase de logement qui a été livrée à l'été dernier. On a donc cette pièce un peu monumentale qui est un peu le totem du quartier, donc cette offre de services et de commerce qui a été ouverte avec son parking foisonné. Ce parking foisonné qui accueille la moitié des besoins du stationnement du quartier. À la fin de l'année, on aura quasiment la moitié du programme qui sera livré. Donc viendront se compléter avec logement, maison médicale, résidence senior. Et puis les phases successives sont déjà dans des permis qui sont déjà obtenus et des phases chantiers qui sont en cours. Et donc, d'ici fin 2024, début 2025, nous aurons terminé le projet avec un marqueur assez important, c'est qu'on travaille donc avec la MEL pour pouvoir réouvrir un cours d'eau qui était complètement enfoui et donc qui viendra ceinturer le site et apporter une qualité de vie paysagère notamment, de convivialité autour du site.
Et ça, c'était une volonté de vote, c'était une contrainte ou une volonté de se dire qu'on va... On va lancer un projet qui va un peu durer dans le temps. Donc on ne va pas tout construire et tout rénover d'un bloc, mais on va le faire dans le temps.
C'était assez naturel parce qu'il fallait déjà accompagner le redéveloppement du site. On a déjà commencé par une phase de déconstruction avec une ambition zéro déchet assez poussée. On a notamment réutilisé l'intégralité des bétons issus de la déconstruction sur site. On a travaillé, on avait la particularité d'avoir dans ces entrepôts du parquet en chêne massif sur certains étages qu'on a réutilisé pour en faire du mobilier. On a travaillé avec des filières associatives, des filières de R&D et puis des industriels comme Tarket qui ont récupéré un certain nombre de parquets. Donc c'est des projets qui sont forcément longs à se développer. On voulait aussi gérer les différentes phases successives de commercialisation pour qu'il n'y ait pas de cannibalisation entre les différents promoteurs, nous et Link City principalement évidemment. Et donc naturellement ce projet il s'installe forcément dans la durée pour pouvoir développer ces phases successives et puis après nous permettre aux riverains, aux voisins de mieux appréhender le projet dans son ensemble.
D'accord. Donc c'est quand même un projet qui finalement, bout à bout, a duré presque une petite dizaine d'années. Quoi.
Oui, c'est souvent le cas sur ces échelles-là. On a souvent cette échelle temps qui est attachée à ce genre de grand projet, tout à fait.
D'accord. Bon, en tout cas, ça donne envie d'aller voir. Moi qui habite pas très loin, qui n'ai pas encore été, ça donne envie d'aller voir un peu comment ça a été pensé, comment ça a été construit, puis commencer à venir consommer un peu chez Biltoki, que je connais un peu. Donc, il y a ceux qui nous écoutent qui sont dans le Nord, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'imagine que c'est très sympa. Et tu as peut-être d'autres projets un peu en cours, alors peut-être pas de cette envergure-là, mais il y a d'autres projets, que ce soit dans le Nord ou ailleurs, qui ressemblent à ça.
Sur les Hauts-de-France, on a un projet qui est assez similaire, qui se retrouve sur les bords de la Deule, donc qui est le cours d'eau principal qui est autour de l'île, donc à Saint-André. Un projet qui est assez analogue dans sa conception, avec un enjeu historique qui est un peu différent. On n'est pas sur des entrepôts, on est sur une friche industrielle avec des enjeux de dépollution préalable qui ont été assez forts, et puis la présence significative de l'eau qui vient ajouter aussi une couleur au projet. Et donc on est sur un projet qui est assez analogue. Sur les Hauts-de-France, on a ce type de projet. On a aussi des projets autour d'une partie de transformation des sites commerciaux historiques, puisque ça fait partie de notre vocation que de travailler sur la transformation des sites, j'en ai parlé en préalable. Et un peu partout en France, hein, on a des projets qui vont de Lille jusqu'à Bordeaux et de Strasbourg jusqu'à Nantes, en passant évidemment par Paris. On travaille notamment sur la reconversion d'un supermarché en plein centre de Bordeaux, sur le site de Cunard, sur lequel on va redévelopper un nouveau supermarché, un nouvel outil pour notre partenaire Auchan, et qui viendra être complété par de l'urbanisme mixte avec une programmation bureau et logement qui complète la programmation.
Donc ça, pareil, c'est un ancien supermarché ou c'est juste un supermarché ?
C'est un supermarché qui est déjà en fonction. Ça fait partie des difficultés aujourd'hui des mutations des ensembles commerciaux. Hein. On a déjà des commerçants qui œuvrent au quotidien et qui ont des enjeux qui sont plutôt court terme, évidemment, pour faire marcher leur boutique. Et donc, on a embarqué, on remercie encore Auchan de leur confiance là-dessus, pour leur proposer un outil neuf et dans un environnement qui sera beaucoup plus cohérent avec leur voisinage. Donc, on essaye de gérer ces échelles temps, court et moyen terme, et puis plus long terme pour l'immobilier, bien sûr.
Et là, par exemple, ça représente combien de projets en cours, vous avez ?
C'est une bonne question. On a donc, vous m'avez posé la question tout à l'heure, on a à peu près 80 sites commerciaux en gestion. On a à peu près également 80 projets dans les tuyaux, alors qu'ils ne sont pas tous, je le disais, sur des sites commerciaux. Voilà, on essaie de gérer. Ça va de projets, on va dire, à partir de 8000 m² jusqu'à 100000 m² généralement.
Et donc, il y a des projets aussi à l'étranger ?
Il y a des projets étrangers. Un des projets phares de Nood, ça a été le développement et le redéveloppement d'un site à Vigo en Espagne, qui permet de retransformer complètement cette gare et puis la connexion avec le centre-ville de Vigo, avec un ensemble commercial et de mixité urbaine. On a des projets également en Italie, en Roumanie, qui sont assez significatifs. On est présent dans 10 pays en Europe. Ça fait pas mal d'activités.
Ouais, ouais. Et du coup, pareil, dans les 10 pays, j'imagine que c'est le même ADN, le même état d'esprit de redonner vie à un immeuble abandonné ou autre, soit de recréer des lieux mixtes, pareil.
Oui, il y a toujours cet ADN qui est issu de notre histoire de retailer. Et il y a cette culture de faire avec d'écouter les clients, d'écouter nos prospects, d'écouter nos parties prenantes pour essayer de trouver la meilleure réponse et la plus durable, en intégrant forcément les enjeux que porte une collectivité et puis nos enjeux autour de l'environnement que l'on souhaite les plus marquants et les plus impactants possibles.
Et justement, un autre slogan, je crois, qu'il y avait sur votre site, c'est ensemble, virgule, construisons la ville de demain. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment le terme ensemble où on sent bien que toutes les parties prenantes sont intégrées au projet. Et donc, pour toi, alors on va essayer, je ne sais pas si c'est une réponse qui va être très claire, mais c'est quoi pour toi, du coup, la ville de demain ?
Bah, pour moi et l'entreprise, la ville de demain, elle est forcément autour de la proximité, de l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, ce n'est pas qu'un sujet de transport, c'est aussi une accessibilité du coût de l'immobilier. Il y a évidemment dans notre ambition de faire des lieux à triple impact positif un enjeu autour de l'environnement, un enjeu autour du carbone et de la sobriété, un enjeu de renaturer des espaces qui ont été largement imperméabilisés, et puis de pouvoir développer toujours plus de services, toujours plus de mixité au service de nos clients.
Et quand tu dis le triple impact, quoi, c'est au niveau 1 de la planète, des humains, des et espèces aussi ?
Oui, il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu sociétal, et puis comme nous sommes une entreprise, on doit assurer sa pérennité, et donc il y a un enjeu autour du profit pour pouvoir développer nos projets dans le futur.
Ouais, donc ça c'est toute la performance économique avec la performance écologique, c'est réussir un peu à lier les deux, quoi.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est une vraie. On en discutait aussi un petit peu avant. Est-ce que c'est une vraie, un vrai marqueur chez vous, une vraie conviction, et ça fonctionne ? Vous avez déjà des retours, des chiffres qui montrent que vous avez réussi à lier du coup un peu écologie, économie sur vos sites ?
Ah bah oui, on a aujourd'hui des marqueurs. On essaye de les monitorer toujours de manière plus fine, évidemment. Je dirais, pour revenir sur le sujet de la mairie, c'est assez marquant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cet enjeu de co-construction et de socle d'ambition qui vient animer le développement du projet. Donc là, on est plus sur la partie sociétale pour essayer d'embarquer le plus de parties prenantes et de répondre à leurs besoins. Et il y a un enjeu environnemental fort. On est sur des entrepôts que l'on a déconstruits, où on a tout trié à une époque où les enjeux autour de la démolition des bâtiments et du tri des déchets et de la du réemploi n'étaient pas du tout installés comme il l'est aujourd'hui. Et on a cette fierté d'avoir réalisé cette démolition en mode zéro déchet et avec cet objectif atteint de zéro déchet sans qu'il ait coûté plus cher que si on avait fait une démolition classique, ce qui était une performance à l'époque. Et puis cet enjeu de renaturation pour faire en sorte qu'on améliore le coefficient de biotope par surface, qu'on améliore le coefficient d'albédo sur ce site, qu'on améliore les surfaces de perméabilité du site en recréant de la ville sur un environnement qui était déjà construit, donc sans artificialiser encore plus des champs ou des espaces naturels qui doivent être protégés.
Ouais, c'est en tout cas bravo, hein, bravo à toute l'équipe de Nood et à toute la FM au-dessus, parce que c'est assez impressionnant de voir, en tout cas d'avoir des convictions et ensuite de réussir à les mettre en œuvre sur des projets qui durent d'ailleurs aussi longtemps. En tout cas, bravo, parce que ça donne envie de voir plus d'acteurs travailler comme vous dans ce sens-là, avec tout ce qui est récupération, tout ce qui est revitalisation, tout ce qui est réutilisation des matériaux, etc. Je trouve que c'est un très très bon positionnement. Écoute, merci pour tous ces éclairages, merci et bravo surtout à tous ces
merci
projets. Je pense que je vais rentrer à Lille, je vais tout de suite aller faire un petit tour à la mairie pour aller voir un peu tout ça. Je suis ravi d'avoir fait cet épisode où on sent bien que le nom de l'émission, qui est l'immobilier dans le bon sens, on sent que vous avez, vous, à construire dans le bon sens et que ça marche en plus. Donc c'est rassurant de se dire aussi que quand tout ce qu'on a envie de faire et qu'on arrive à faire, finalement, ça fonctionne autant pour la ville, autant pour les humains, autant pour la planète aussi. Donc c'est rassurant de se dire qu'on a des solutions pour construire différemment. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc.
Non, déjà, évidemment, merci pour ton accueil. Et puis cette ambition, elle a la chance d'être portée par des collaborateurs qui sont engagés. On a beaucoup d'équipes, on a 370 personnes aujourd'hui qui travaillent en France pour Nood et 1000 en Europe. Et cette stratégie qui peut être un marqueur publicitaire, il ne peut exister et ces projets ne peuvent exister que s'il y a des collaborateurs qui sont engagés, qui ont envie de pousser un certain nombre de sujets, être en dépassement de fonction parfois sur certains sujets parce que l'enjeu le vaut, tout simplement.
Ouais, et en tout cas, ça se ressent. Ça se ressent. Bon, merci encore. Bon retour à Lille.
Merci.
On sera peut-être dans le même train tout à l'heure.
C'est possible.
Voilà, donc, et puis nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. On va continuer à explorer et à rencontrer des opérateurs et des utilisateurs, des constructeurs qui pensent de manière un peu différente dans le bon sens. Donc, je vous dis à très bientôt.
L'immobilier dans le bon sens, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.